des lits creusés comme des filles dans le sable fin. Nous aurons des fruits les mêmes qu'on grappille dans le champ voisin. Nous aurons bien sûr dedans nos maisons blêmes tous les becs d'azur qu'il a.
Bonsoir, c'est Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. Toute l'équipe Yves et Laurent de Jazz Libre vous souhaite une bonne année 2024 en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Voilà. Alors, ce jeudi, Jazz Libre étant hors les murs, nous vous proposons en fait de démarrer l'année en douceur et on va rediffuser pour l'occasion une émission du 1er août 2013, 10 ans déjà, consacrée au duo, un duo qui était éphémère. De deux monstres sacrés du saxophone ténor, il s'agit de Coleman Hawkins, surnommé The Bean, le haricot, ou Hawk, le faucon, diminutif de Hawkins, et Ben Webster, la brute ou la grenouille, c'est le sort en fonction de... Voilà. Alors, sachez que cette rediffusion va être augmentée de quelques morceaux pour pouvoir tenir, puisqu'à l'époque, Jazz Lib ne faisait qu'une heure et demie en durée. Donc, voilà, c'est pour ça que vous allez même écouter le dernier morceau de l'émission de 2013 en entier. Et plus un document exceptionnel que je vous repréciserai au moment de la fin de l'émission. Une émission tirée d'émission de télévision de CBS aux États-Unis de 1958. Et je ne vous dis que ça. Voilà, à tout à l'heure, Fraterny Swing, on vous renouvelle tous nos vœux, et puis on s'excuse, mais là on est hors les murs.
Voilà, également, je vous rappelle que la radio est une radio associative qui a besoin de votre soutien. Soutien intellectuel, politique et moral, et soutien financier. Vous avez la possibilité de télécharger le bon de soutien sur le site de la Fédération anarchiste. Vous avez également la possibilité de le retirer à la librairie Publico, 11 rue Amelot, dans le 11e à Paris. Je vous ai tout dit, je crois, vous êtes bien. Nous sommes bien sur Radio Libertaire 89.4. L'émission, c'est Jazz Lib. Claude derrière les platines, Yves derrière le micro. Ce soir, une émission différente. Nous sommes à Radio Libertaire, donc nous en profitons pour faire des choses différentes. Et donc, ce soir, nous allons nous pencher sur un enregistrement important, intéressant, magnifique, qui est la confrontation de deux géants, de deux monstres absolument singuliers et assez effrayants. Alors, nous allons commencer par le plus vieux, honneur aux aînés. Il s'agit de Coleman Hawkins, que l'on surnommait le haricot. Il est né un 21 novembre 1904 et il est mort un 19 mai 1969. Il est considéré comme étant l'inventeur du saxophone ténor, même si lui s'en défend en disant qu'il y avait d'autres saxophonistes avant lui, sans doute vrai, dans des orchestres comme les orchestres de, comment dire, qui sont venus avant lui de Chicago. Mais le rôle des orchestres, notamment dans l'orchestre de Fletcher Anderson, était relativement le rôle des saxophonistes était relativement limité puisqu'ils avaient tendance à faire ce qu'on appelle du burlesque, d'imiter des animaux, ce genre de choses. Or, Coleman Hawkins, c'est le premier qui va imprimer, je dirais, une modernité dans le discours du saxophone. Et il va avoir, je dirais, tout le long de sa carrière, une vision d'avant-garde, à tel point que tous les saxophonistes modernes se sont inspirés de lui. Et que ce soit Coltrane, Rollins, Dexter Gordon, ont tous reconnu que Coleman Hawkins était l'influence primordiale sans laquelle il n'aurait pas joué. D'un autre côté, nous avons Ben Webster, qu'on peut considérer comme un disciple, qui est né un 27 mars 1909 et qui est mort un 20 septembre 1973, qu'on appelait la brute. C'est assez justifié, ce que vous verrez, c'est un son extrêmement fort, extrêmement rocailleux. À cette époque, dans les années 30, 40 et 50, je dirais début 50, il y a trois saxophonistes qui vont faire école. Il y a Coleman Hawkins, qui est l'inventeur, on va dire, Ben Webster, le disciple, et Lester Young, le lunaire, celui qui est à côté. Certains, évidemment, on l'a vu sur la côte ouest, se sont inspirés de Lester Young, comme Al Conn, Zoot Sims, etc., etc. Sonny Rollins s'inspire de Coleman Hawkins. Et Ben Webster, eh bien, on peut dire qu'un certain nombre de musiciens, notamment comme Archie Shepp, vont s'inspirer tout à fait de Ben Webster. Ben Webster est quelqu'un qui ne va jamais lâcher prise, qui a considéré que Coltrane était quelqu'un de tout à fait intéressant, même plus qu'intéressant. Coleman Hawkins également n'a jamais lâché prise. Et donc là, c'est un disque assez important dans le sens où il y a eu peu de rencontres de ce type. Et donc, ils vont, en 1957, se retrouver auprès d'une section rythmique de rêve, puisqu'il y aura Oscar Peterson au piano, Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la basse et Alvin Stoller à la batterie. Alors, autant vous dire qu'avec un tapis comme ça derrière, ça ne peut être que absolument génial. Ce disque, comme un certain nombre d'autres, on peut dire qu'il aurait été très bien si ça avait été un disque de Coleman Hawkins, et il aurait été très bien si ça avait été un disque de Ben Webster. Mais c'est d'autant mieux qu'ils sont ensemble. C'est un peu comme un disque de Sarah Vaughan avec Count Basie. Ça aurait été un très bon disque de Sarah Vaughan et un très bon disque de Count Basie. Mais ils sont ensemble et ça fait des disques magnifiques. Après, la difficulté que l'on a, c'est de le classer. Est-ce qu'on le classe à Coleman Hawkins, à Ben Webster, à Sarah Vaughan ou à Count Basie? Eh bien là, je vous laisse juger. Nous allons commencer donc par le premier titre de cet album, qui au départ, ça s'appelle... Alors, il y a eu plusieurs rééditions. Donc la réédition que je vous propose est celle qui s'appelle Tenor Giants, qui est un double album qui a été publié chez Verve. L'album d'origine s'appelle Coleman Hawkins, Encounters, Ben Webster. Voilà, donc le premier titre que nous allons écouter s'appelle Maria, qui a été composé pour l'occasion par Coleman Hawkins. Nous sommes en 1957, le 16 octobre à Los Angeles, et c'est parti, Claude. Nous espérons que ce soit parti. Thank you. Radio Liberté 89.4, Jazz Lib, Yves et Claude aux manettes. Alors, Coleman Hawkins est donc né à Saint-Joseph dans le Missouri en 1904. On a des sources plus ou moins contradictoires, comme quoi il serait né en 1901, donc ça n'a vraiment, vraiment aucune importance. Il fait des études de musique classique au Washburn College de Kansas City, puis à Chicago, il apprend le piano et le violoncelle. À 9 ans, il reçoit un saxophone ténor pour son anniversaire. Il fait quelques apparitions en public dès l'âge de 12 ans et il rejoint un orchestre de théâtre à 16 ans. Il apprend la composition et l'harmonie à l'université et il rejoint l'orchestre de la chanteuse Mamie Smith en 1922-1923. Il commence à avoir une certaine popularité dans l'orchestre de Fletcher Anderson, dans lequel il est engagé dès 1922. Et il devient très rapidement le soliste principal et la vedette de cet orchestre. Il quitte Anderson en 34 et il est engagé par le chef d'orchestre Jack Hilton pour faire une tournée en Europe, notamment en France, en Angleterre, en Hollande et en Suisse. Il a eu, à ce titre, une influence considérable sur le développement du jazz en Europe. Il va rencontrer Django Reinhardt, Alex Combel, Stéphane Grappelli, qui vont s'inspirer, évidemment, de son style. Au début de la guerre, en Europe, il retourne aux États-Unis, il monte un big band dans lequel il enregistre la fameuse et légendaire interprétation de Body and Soul, qui sera non seulement une des meilleures ventes, mais qui sera ce qu'on appelle une pierre angulaire sur le jazz moderne. Tout le monde s'est inspiré de ce fameux Body and Soul de 1939. En 1942, il se produit dans diverses formations. Il enregistre avec Dizzy Gillespie et Roy Eldridge, ce qui veut dire qu'il est complètement à l'écoute du bebop. Il recrute des musiciens aussi importants comme Fats Navarro, malheureusement carrière météorique, Mick Jackson, le vibraphoniste du Modern Jazz Quartet, Max Roach à la batterie et Daniel Ousmonk. Dans les années 50-60, il fait partie des vedettes de ce grand orchestre assez improbable qui avait été fait par Norman Granz, qui s'appelait Jazz at the Philharmonic, qui était relativement discutable, mais on a eu quand même des faces intéressantes. Je vous en passerai un jour avec Nat King Cole au piano et son guitariste, c'est absolument fandard. Il enregistre avec Sonny Rollins. Je vous avais passé ce fameux truc de Rollins où Rollins tue le père. Il enregistre avec Miles Davis, avec donc ceux que je vous ai cités. Et il va même faire une tentative de bossa nova en 1963, qui est plus ou moins discutable, mais bon, la bossa nova est de toute façon discutable par définition. Déçu par l'industrie musicale, démotivé, il sombre dans l'alcoolisme, enfin bon, voilà. Mais il apparaît encore sur quelques scènes dans des films et il gère un petit club. Et puis finalement, il meurt le 19 mai 69 à New York. J'ai quelques enregistrements sur la fin de sa vie où on sent qu'il est quand même très très en colère dans son jeu, qu'il lâche rien. Il est toujours là, toujours présent. Il ne veut pas se faire doubler par les modernes. Et il a bien raison, c'est comme ça qu'il faut considérer la vision d'un créateur et surtout du jazz. Toujours aller de l'avant, sans jamais renier ce que l'on est. Alors, il a une discographie... alors là, c'est une discographie complètement incroyable. De 1934 jusqu'à 1969, il ne va pas arrêter d'enregistrer. Donc, il y a des disques et des disques et des disques. Enfin, c'est absolument incroyable. Je ne peux pas tous vous les citer. Voilà, il y a un disque par an quasiment, voire même plus. Donc c'est un musicien essentiel. Nous aurons l'occasion évidemment de le retrouver dans d'autres contextes, mais je tenais particulièrement à vous faire écouter ce disque, qui est un disque superbe, qui est une sorte de parenthèse et d'écrin. Dans le premier thème que nous avons entendu, le premier chorus, donc premier solo si l'on veut, de saxophone, c'est celui de Coleman Hawkins. On voit qu'il a un son assez droit, avec beaucoup de circonvolutions. Il va tourner autour de la mélodie. C'est très sinueux, très très propre, très très bien fait. Et puis ensuite, le deuxième chorus, Ben Webster, où là, on sent le souffle, quelque chose d'un petit peu plus animal. Et encore, là, il se lâche pas. Nous allons voir la biographie de Ben Webster après, parce qu'elle est aussi relativement impressionnante. Nous allons donc écouter maintenant un deuxième thème, toujours avec les mêmes, avec Oscar Peterson, Herb Ellis, Ray Brown à la basse, Samuel Stoller à la batterie le 16 octobre 57. Un thème de Rogers et Hart. Bon, ça, vous les avez beaucoup entendus. Hein, c'est un petit peu comme à la télé pour les anciens qui se souviennent des décors de Donald Caldwell et les costumes de Roger Hart. Ben là, c'est Hart et Rogers. C'était deux pondeurs de comédie musicale. Le thème s'appelle « It Never Entered My Mind », qui a été tout à fait, pendant très longtemps, un thème de chevet de Miles Davis. Donc là, ils le prennent de manière très personnelle, tous les deux. Ce qui est intéressant dans ce double album, et c'est pour ça que je tenais à vous le faire partager, c'est qu'il n'y a pas de compétition, il y a plutôt une saine émulation. Il y a un maître, un disciple qui est largement autonome, c'est-à-dire qu'il est disciple, je dirais, d'une manière logique dans son style, mais il a retrouvé ses marques. Il est aussi célèbre, ils ont peu d'années de différence. Ce sont les deux challengers de l'époque quasiment incontestés. Ben Webster, la brute, Coleman Hawkins, le haricot, It Never Entered My Mind, c'est parti, Claude, si ça veut bien marcher. Thank you. Jazz Lib 89.4, Yves et Claude derrière manettes et studios, 01 43 71 89 40, Jazz Lib à votre service entre chien et loup. Donc, nous venons d'écouter It Never Enter My Mind. Donc, le premier exposé avait été par Ben Webster et ensuite par Coleman Hawkins. Donc, Ben Webster, le style particulier, le son particulier de Ben Webster, c'est qu'il a beaucoup de souffle et qu'à certains moments, il peut avoir un son rauque, un peu granuleux, assez fort. C'est pour ça qu'on le surnommait la brute. Alors, ils ont en commun, Coleman Hawkins et Ben Webster, d'avoir appris le piano. Et Benjamin Francis Webster, né un 27 mars 1909 et mort un 20 septembre 1973, qu'on appelait la brute, ou la grenouille aussi. Bon, bref, il est né aussi à Kansas City, dans le Missouri. Donc, non seulement ils sont assez proches d'un point de vue âge, mais également ils sont proches d'un point de vue géographique. Et je pense qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez important. Donc c'est pareil, il a été considéré comme un des plus importants ténors de sa génération, avec Lester Young, comme je le disais. Donc il apprend le piano, il apprend le violon assez tôt, avant de passer au saxophone. Il va même de temps en temps retourner au piano et faire quelques enregistrements en tant que pianiste. Il démarre avec Bud Johnson, pardon. Il joue également avec la famille de Lester Young, parce qu'il y avait Lee Young qui était batteur et Lester Young saxophoniste. Alors en fait, au départ, Lester Young était batteur et Lee Young saxophoniste. Et puis un jour, Lester Young en avait marre de se faire piquer les gonzesses à la sortie des concerts, parce qu'il était obligé de replier la batterie. Un jour, il a dit à son frère, « Tiens, tu voudrais pas prendre la batterie ? Moi, je vais prendre le ténor. » Et en fait, c'était uniquement pour pouvoir draguer les filles. Et du coup, c'est resté comme ça. Heureusement pour la musique, je pense que c'était une bonne chose. Donc, il rejoint, dans les années 30, le légendaire orchestre de Benny Moten. Et en 1932, il va... Dans l'orchestre de Benny Moten en 1932, celui qui tenait le piano, c'était Count Basie. Donc, il n'était pas encore en train de former son orchestre. Il y aura, à l'époque, Hot Lips Page à la trompette et Walter Page à la basse. C'est d'ailleurs évoqué dans le film de Robert Altman, si vous vous souvenez, qui s'appelait Kansas City. Donc, il va passer quelques années, Ben Webster, avec Andy Kirk, avec Fletcher Anderson en 1934, avec Benny Carter, Willie Bryant, Cab Galloway, le magnifique Cab Galloway, et avoir quelques shows avec le big band de Teddy Wilson, qui était un excellent pianiste. Tout ceci, évidemment, dans une très très grande fraternité, il faut le dire. Il joue, évidemment, avec Duke Ellington pour la première fois en 1935, et en 1940, il devient le premier ténor de l'orchestre de Duke. Il va évidemment enregistrer des thèmes aussi célèbres que Cotton Tail, All Too Soon. Il va travailler avec l'époque où il y avait le magnifique bassiste Jimmy Blanton, qui est mort beaucoup trop tôt, malheureusement. Après, il quitte Ellington en 1943 et il va travailler dans le quartier de la 52e rue à New York, où il va rencontrer John Kirby, Sid Catlett, le magnifique batteur, l'orchestre de Jay McShane, etc., etc. Donc, nous allons revenir un petit peu après, parce que la carrière de Ben Webster est assez importante. Nous allons écouter un thème archi connu, maintenant, qui s'appelle You'd Be So Nice To Come Home To, de Cole Porter. Donc, voilà, hein, c'est que du traditionnel. Et néanmoins du très beau, c'est une musique tout à fait qui va très bien avec le temps, un petit peu légèrement alanguie, mais en même temps ça reste solide et viril. C'est plutôt de la musique d'homme, comme on dirait, du temps des tontons flingueurs. Allez, c'est parti, Claude. J'ai rien là. Que se passe-t-il ? Radio Libertaire, 89.4, Jazz Lib, Yves et Claude derrière micros et manettes, 01 43 71 89 40. Vous pouvez réécouter l'émission sur la grille des programmes jeudi 20h30 entre Chien et Loup et Jazz Lib. Vous pouvez regarder ma page Facebook avec bon nombre de vidéos, de mises à jour, etc. etc. Et vous pouvez m'envoyer un mail à dk51@sfr.fr. Alors, je disais tout à l'heure quelque chose d'important concernant le fait que aussi bien Ben Webster que Coleman Hawkins aimaient d'autres musiciens modernes. Et Coleman Hawkins déclarait même qu'il aimait beaucoup Alcon et Zoot Sims, qui étaient des saxophonistes blancs. Lors de mon émission sur la West Coast, où je me suis fait par une auditrice, sans doute peu dans son état normal, trouvait que l'émission était plate. J'avais attribué ça au fait qu'on écoutait des 33 tours, ce qui avait quand même la fâcheuse tendance à être plutôt plat, les 33 tours. Donc, sans doute, en était-ce la cause. Donc, ces histoires de couleurs blanc, noir, jaune, rouge ou vert ne tient pas la route, puisque Coleman Hawkins, inventeur du saxophone moderne, disait qu'il aimait Alcon Zoot Sims, qu'il aimait Stan Getz. Il aimait également Sonny Rollins et Sonny Stitt. Ben Webster, quant à lui, disait qu'il aimait Coltrane, qu'il aimait Sonny Rollins et Tutti Quanti. Alors, Ben Webster, pour revenir à lui, en fait, dans ce disque que nous écoutons, cette section rythmique, enfin, en tout cas, Oscar Peterson va jouer beaucoup de nombreuses fois avec lui, et il va également enregistrer avec Art Tatum, le bassiste Red Callender et le batteur Bill Douglas. Donc ça, ce sont quand même des perles absolues, puisque Art Tatum, c'était quand même un très très grand, très très grand pianiste. Alors Ben Webster, à partir de 1964, va rejoindre des musiciens américains en Europe. Et il va pratiquement s'y installer. Il va vivre à Londres un an, et il va rester 4 ans à Amsterdam, pour finir jusqu'à 1969 à Copenhague. Il va beaucoup jouer dans un petit cabaret qui s'appelle le Danish Blue, dont un film a été inspiré de Jours tranquilles à Clichy par Henri Miller. En 71, il revient avec l'orchestre de Duke Ellington pour quelques shows au Jardin de Tivoli, donc à Copenhague, au Danemark. Et il va jouer également avec Earl Hines en France, avec Buck Clayton, Bill Coleman, Teddy Wilson, donc vraiment les anciens, les vieux de la vieille. Il va ensuite, jouer avec encore dans... Certains, d'ailleurs, dans la vidéo que j'ai mise en ligne sur ma page Facebook, il y a Oscar Peterson, Niels Henningerstedt Pedersen, qui était un bassiste danois absolument fabuleux. Il va enregistrer également avec George Arvanitas, notre pianiste national qui nous a quitté relativement récemment. Et donc, il va enregistrer jusqu'en 1972, c'est-à-dire très très peu de temps avant sa mort. Des musiciens comme Archie Shepp, Lew Tabakin, magnifique Lew Tabakin, dont j'avais passé quelques faces lors de l'émission sur la West Coast, Scott Hamilton, David Murray et Benny Wallace, se sont déclarés s'inspirer beaucoup de... Ben Webster, dont le son, le phrasé, la rugosité fait partie un peu de cette tradition des ténors, ce qu'on appelait les shouters, c'est-à-dire les crieurs, qui jouaient un peu comme Illinois Jacquet, comme ça, mais avec quand même un peu plus de recherche, un peu plus de finesse. Et puis, c'est pareil, Ben Webster est un musicien qui a jamais voulu lâcher prise par rapport à la modernité. Il a toujours eu une oreille sur le bebop, sur Coltrane et ce genre de musicien. Nous allons donc écouter un autre thème de Enskine et O'Keefe, strictement inconnu au bataillon, et le thème s'appelle La Rosita, c'est un thème qui a une petite coloration légèrement latine. Vous allez voir, c'est tout à fait charmant. tout à fait de circonstance eu égard à la température extérieure. Voilà, un petit peu d'air frais qui nous vient des îles. C'est parti, Claude.
Thank you.
Radio Liberté, 89.4, Yves, Jazzlib et Claude. Il est à noter quelque chose d'important également concernant Coleman Hawkins, c'est qu'il a été non seulement l'inventeur du saxophone moderne, mais il a inventé aussi le concept même de solo de saxophone sans accompagnement, notamment dans le disque de 1948, le thème s'appelait Picasso, qui était basé sur les accords de Body and Soul. Et donc, on voit que il y a un besoin de modernisme, de pousser les choses, de pas s'avouer vaincu, d'être vraiment toujours là présent. Revenons à Ben Webster. Il faut noter quelque chose quand même d'important, c'est qu'après la mort de Ben Webster, Billy Moore Jr. a créé une fondation Ben Webster. Qui s'est installé à Los Angeles. La fondation Ben Webster, d'ailleurs, a été adoubée, on peut dire, par la reine du Danemark en 1976. Et la devise, en gros, de cette fondation, c'est support pour la popularisation du jazz au Danemark. Il y a également chaque année un prix, le prix Ben Webster pour des musiciens, à la fois au Danemark et aux USA. C'est un prix qui est plus, honorifique et symbolique que sur l'argent, mais qui a quand même son importance, puisque tout ce qui est officiel dans le jazz, malgré tout, reste quelque chose d'important en opposition à la musique classique, etc., etc. Je ne referai pas le discours là-dessus. Bien. Il y a également à noter une très très grosse discographie de Ben Webster. Il a enregistré notamment des très beaux disques, un en duo avec Jerry Mulligan. Ça fait partie de ces disques dont j'expliquais tout à l'heure. C'était sûrement un bon disque de Mulligan et ça aurait été un bon disque de Ben Webster, mais c'est d'autant bon qu'ils sont ensemble. Il a fait également un disque avec Harry Edison, qu'on appelait Sweet Edison. Un disque également avec Joe Zawinul, le pianiste de Cannonball Adderley à l'époque, qui va faire Weather Report par la suite. Donc on voit qu'il a su s'entourer de musiciens assez, assez importants. Il a joué, je vous l'ai dit, avec George Arvanitas. Je signale d'ailleurs que ce disque, Autumn Leaves, par George Arvanitas et Ben Webster, est un disque Futura de notre camarade Gérard Terrones, qui était sur ses ondes avant moi il y a quelques années. Donc, grâce lui en soit rendue. Vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur le site Futura Marge, je crois que c'est free.fr, où vous avez tout un tas de rééditions, dont notamment ce disque magnifique. Il a fait également des disques avec Mondell Lowe, le guitariste, avec Oliver Nelson, l'arrangeur, avec Art Tatum, Clark Terry. Donc voilà, on peut dire que c'est pas n'importe qui, ce sont ce qu'on appelle des landmarks, hein, c'est des pierres, des bornes, des moments importants dans l'histoire discographique de l'histoire du jazz. Deux musiciens absolument fondamentaux. Nous allons maintenant écouter un blues, parce que il faut toujours en passer par le blues. Je pense que notre ami Blues en Liberté, Thierry Porret, ne me critiquerait pas sur le point. Il y a une filiation énorme entre le blues et le jazz. Le jazz, lorsqu'il s'empare du blues, arrive toujours à le faire swinguer. Et c'est la base même et l'essence même de cette musique. Donc le thème est un thème de Coleman Hawkins qui s'appelle Blues for Yolanda. Et nous sommes toujours le 16 octobre 57 à Los Angeles. Il y a toujours Oscar Peterson au piano, Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la basse et Alvin Stoller à la batterie. Et je ne sais pas si vous avez fait attention au jeu du batteur dans La Rosita, le morceau précédent. C'était tout à fait intéressant. Il jouait avec les baguettes sur le rebord de la caisse claire, mais le rebord de la caisse claire sans les timbres. Alors, petite explication, une caisse claire, d'où son nom, a ce qu'on appelle des timbres, c'est-à-dire sous la peau inférieure de cette caisse claire, il y a on va dire une sorte de petit grillage métallique que l'on peut tendre contre la peau ou détendre. Lorsqu'elle est tendue, ça donne ce son métallique très particulier que on utilise dans le cirque pour faire des frisottis, tout ça. Et on peut la désolidariser, donc on va supprimer ce côté très métallique et avoir un son plus mat. Et c'est ce qui s'est passé dans ce disque, dans ce thème de la Rosital. Le batteur a tapé sur le rebord de sa caisse claire sans les timbres, ce qui donnait quelque chose de particulier. Sinon, le terme exact s'appelle rimshot. Voilà. N'empêche que c'est quand même parti Blues for Yolanda, Claude. Radio Libertaire, 89.4, Jazz Lib, Entre Chien et Loup, Yves et Claude, 01 43 71 89 40. Juste un petit détail, sans importance, mais c'est plutôt rigolo. Le thème précédent, donc pas celui-ci, mais l'autre, la Rosita, c'est un thème qui date de 1923. Voilà, c'est pour dire que le temps ne fait rien à l'affaire. Donc on a vu là dans ce blues que c'était quand même des ténors plutôt solides, hein, ils envoyaient de l'air ou du bois, enfin en tout cas des copeaux de d'anches de saxophone. Ça déménage quand même, hein. Il faut dire que ils ont les poumons plutôt solides. D'ailleurs, quand on les voit, ils avaient plutôt une sacrée carrure, pas très grand mais plutôt large. Donc, revenons à Coleman Hawkins, il a beaucoup enregistré également. Le fameux disque de 63 avec Rollins, c'est quand même un événement. Il a joué également avec Miles Davis. Il a enregistré avec Kenny Burrell, l'inspecteur Burrell à la guitare, avec Eddie Lockjaw Davis, avec Duke Ellington, avec Tiny Grimes, avec la chanteuse Abby Lincoln, avec le magnifique batteur Chelly Mann. Il a enregistré également des disques très importants avec Thelonious Monk et Coltrane, avec Max Roach et avec Randy Weston, qui est un pianiste, je crois, qui est toujours vivant et qui fait toujours des choses tout à fait passionnantes, très inspiré par l'Afrique, très très bonne inspiration. À noter qu'il existe une biographie, je crois, en anglais sur Coleman Hawkins, The Song of the Hawk, donc The Hawk qui est un diminutif de Hawkins, qui est le Hawk qui est le faucon. Voilà, donc nous allons maintenant continuer en écoutant un thème qui nous rajeunit pas non plus, qui s'appelle Prisoner of Love. Toujours avec les mêmes musiciens, voilà, c'est un disque magnifique. On continue, il fait chaud. Et nous sommes prisonniers de l'amour, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est parti. Ah oui, pardon, excusez-moi. Claude qui me fait des yeux pas possibles en me disant « Excuse-nous auprès des auditeurs concernant les problèmes techniques que nous rencontrons. » Et oui, nous en rencontrons un petit peu. Voilà, veuillez nous pardonner sur les quelques blancs, les hésitations, les divers craquements et autres gremlins qui pourraient se mettre dans les tuyaux. Mais que voulez-vous ? Voilà, nous sommes une radio libertaire et les gremlins en profitent. Donc, Prisoner of Love, Claude. Thank you.